Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, par cette matinée un peu fraîche, hein. On est dans le brouillard, hier je crois qu'il ne s'est pas levé de la journée. Bien, donc on va, pour cette émission de littéraire en Périgord, j'ai sous les yeux un livre de Bruno Combes, qui s'intitule « La part des anges ». Alors, Bruno Combes, c'est pas complètement un inconnu. Il est né en 1960, sur sa fiche, en 1962 à Bordeaux, donc c'est un voisin de la Gironde, et il est l'auteur de 7 romans publiés aux éditions Michel Lafon, aux éditions J'ai lu, ou en livre de poche. Voilà, alors il a écrit son premier roman, « Les amants de la bergerie », le tome 1 de la saga « Le secret de la montagne noire » en 2014, suivi d'un second, « La promesse de cristal » en 2015. Il enchaîne avec « Seulement, si tu en as envie » en 2016, et « Ce que je n'oserais jamais te dire » en 2017, parce que c'était toi 2018, d'un cours plus... Je ne cours plus qu'après mes rêves en 2019 et enfin La part des anges en 2020. Alors, cette part des anges, on va regarder un peu ce que c'est parce que cette histoire se déroule en partie en Périgord et je pense du côté de Saint-Cyprien et puis on va aller au marché de Sarlat. Alors, Bruno Combes, il a pas mal de succès et ce succès l'ouvre les portes des éditeurs traditionnels. Il choisit de travailler avec les éditions Michel Lafon, comme on l'a dit, à partir de 2016. Et ses livres sont publiés en France, en Belgique, au Québec, et puis dans les éditions J'ai lu en format de poche. Alors, pour le connaître un peu mieux, il a une formation, comme tout le monde, mais ce n'est pas une formation littéraire. Il est ingénieur chimiste de formation et il a étudié la chimie à la faculté de Saint-Jérôme à Marseille, puis a complété son cursus par un diplôme d'études approfondies, donc c'est un DEA en biostatistique et épidémiologie à la faculté de médecine, Université de Bordeaux 2. Voilà, donc on va le laisser un peu, puis on va prendre quand même connaissance de ce livre, donc La part des anges. Alors, La part des anges, c'est un livre qui mélange l'histoire actuelle et puis un peu l'histoire du passé, c'est-à-dire de la guerre de 40. Alors l'histoire, c'est un couple, donc lui il est médecin, sa femme est professeure d'anglais, et ils vont perdre un enfant, leur fils, dans un bête accident. Un accident est toujours un peu bête, un accident de voiture. Bon. Alors, il y a bien sûr quelques notes. Alors, voilà le chapitre 7. Et il y a des rencontres qui nous amusent, certaines qui nous rassurent, d'autres rares qui nous élèvent. Il y a aussi toutes celles que l'on espère, prêtes à bondir de leur cachette avec leur lot de surprises inattendues. Et puis il existe l'unique rencontre, celle dont on ne soupçonne pas l'existence, elle est la patiente, elle s'attend, tel un guide pour nous conduire vers la lumière. Et on ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais au fond, qu'importe, elle saura nous faire signe. Cette jeune femme donc va se retrouver en Périgord et elle va avoir une aide inattendue d'une personne qui habitait ce lieu-dit, donc la part des anges, qui est une grosse maison, une maison de maître, comme l'on disait autrefois. Et donc elle va avoir l'aide de cette personne qui est quand même décédée depuis quelques temps. Voilà, alors donc on va poursuivre un peu la lecture de son livre. Et il y a le chapitre 13 qui débute ainsi. « A-t-on déjà vu une femme ? Notre société peut nous faire croire que la femme est l'égale de l'homme. Constat discutable. Depuis des décennies, les femmes se battent pour obtenir leur liberté et continuent de le faire pour des générations à venir. La preuve d'une volonté sans faille. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Elle lui est en bien des points supérieure. A-t-on déjà vu une femme déclarer une guerre ? A-t-on déjà vu une femme provoquer un génocide ? Qui a le pouvoir de donner la vie si ce n'est la femme? Certains esprits chagrins diront qu'il existe des exceptions, bien sûr, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Voilà, alors donc cette femme a du mal à se remettre de la mort de son fils, et elle va, ils vont acheter au détriment d'une autre, personne qui est une Irlandaise, qui est un peu une croqueuse, hein, si l'on peut dire. Donc une petite histoire, bien sûr, de jalousie. Alors, voilà ce qu'elle dit. Lisa imaginait ce qu'avait pu être la vie de la jeune femme dans cette maison près de 80 ans auparavant. Depuis, la rénovation effectuée par les anciens propriétaires, l'aménagement intérieur de la demeure n'était plus la même. Alors Lisa tentait de deviner où pouvait se trouver la chambre, le bureau sur lequel Alice avait rédigé ses écrits, sur lequel, dans lesquels les trois greniers avaient pris, pu être entreposés des sacs de farine. Alors, bien sûr, une partie de l'histoire, comme je disais, se déroule pendant la dernière guerre, et cette propriétaire, par des âges, était assez importante, et il y avait quand même pas mal de blés qui servaient à faire du pain et qui a dû nourrir quelques personnes du voisinage à l'époque. Alors, je poursuis la lecture. Lisa ne pouvait se l'expliquer, mais chaque fois qu'elle tenait le carnet entre ses mains, elle ressentait une impression étrange, comme si elle n'était pas seule. Alors, ce carnet, ben, va le trouver tout bêtement, si je peux dire, dans un grenier, dans un meuble, et elle, bien sûr, elle va entreprendre la lecture et va retrouver la personne qui habitait la part des anges dans les années 40 et qui, elle aussi, perdra un enfant. Alors, quelquefois, donc, je reprends la lecture, quelquefois, elle se disait que c'était son imagination qui lui faisait des tours en laissant la porte ouverte à une explication moins rationnelle, où elle avait envie de s'engouffrer. Est-ce l'esprit d'Alice qui rôdait, ou est-ce sa force qui irradiait? Avait-elle besoin de déposer sa souffrance? Alors Lisa se leva et fit le tour de la pièce, comme si elle cherchait des signes de la présence d'Alice. Alice, donc, c'est la personne des années 40. De la même façon, de la première fois où elle avait ouvert le carnet, la porte-fenêtre de la cuisine claqua, alors que le soleil tapait fort et qu'il y avait pas un souffle de vent. Ce signe fugace ne prouvait rien, mais elle avait envie d'y croire. Elle était persuadée. Alice était là pour elle, et elle était là pour Alice. De destin de femmes qui n'avaient rien en commun, qui n'avaient pas vécu à la même époque, mais qui, sans le savoir, s'étaient cherchées et trouvées. De solitude, blessée par des épreuves de la vie, qui, à travers l'histoire de l'autre, tentaient de trouver la paix. Alors, Alice avait besoin de la force de dégager Alice, cela lui permettait d'imaginer que malgré les tourments et la tristesse qui habitaient, une reconstruction était possible. Quant à Alice, Lisa était prête à partager et comprendre sa peine pour qu'enfin elle dépose ce fardeau qu'elle avait consigné dans son carnet et porté si longtemps. Voilà, alors donc on va suivre un peu, bien sûr, la lecture de ce livre. Et Lisa va, ben, ma foi, une amie va lui téléphoner, et puis elle va avoir envie un peu de s'aérer. Alors voilà ce que nous dit cette page. Après avoir raccroché, Lisa ressentit le besoin de s'aérer. Comme je le disais, elle aurait midi passé l'après-midi. Alors Emily, c'est la fille de Lisa, passé l'après-midi chez sa copine Elvira. Et dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Les deux jeunes amis vérifient avec soin la liste des fournitures que leur maîtresse avait distribuées aux parents lors de la réunion de pré-rentrée. Lisa devait donc récupérer sa fille aux alentours de 18h. Cela lui laissait l'opportunité de faire une longue balade. Le ciel était d'un bleu limpide et la température parfaite pour une promenade. La canicule, qui avait sévi durant près de 2 semaines, s'était interrompue brutalement le week-end précédent, lorsqu'une vague de violents orages avait fait chuter le thermomètre de plus de 10 degrés. C'est vrai que quand on arrive vers le mois de septembre, un orage quand même fait baisser beaucoup la température. Alors donc Lisa, elle enfila ses baskets et prit soin de ne pas oublier le panier en osier posé sur le perron et le bâton que lui avait confectionné sa fille avec une vieille branche qui lui permettait de farfouiller sous les feuilles et la mousse qui recouvrait le sol autour des plus vieux châtaigniers. Les anciens du village le répétaient aussi le lendemain de fortes pluies orageuses, les premiers champignons n'allaient pas tarder. C'était certain. Lisa n'y connaissait absolument rien, mais les habitués le ramachaient assez, que ce soit au cabinet de son mari ou sur le marché de Sarlat. Alors, Sophie lui avait pourtant assuré qu'il devait y avoir une poussée de cèpes, qu'il ne fallait pas l'espérer avoir une bonne semaine, mais elle voulait y croire, une façon de se changer les idées et de se plier aux us et coutumes de sa région d'adoption. C'est vrai que, bon, une bonne pluie, il faut quand même attendre, mettons, une bonne semaine avant que les cèpes poussent, parce que, bien sûr, en Périgord, le champignon, c'est surtout le cèpe. Quand on parle de champignon, si on a trouvé champignon, c'est pas des girolotes, on parle, c'est des cèpes. Et des fois, il y en a de très gros. Et c'est bien une omelette de cèpes. C'est pas mauvais. Bon, alors donc je vais reprendre un peu la lecture. Lisa progressait à son rythme. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Certains matins étaient toujours aussi noirs, angoissants et sans espoir. Mais l'envie parfois refaisait une apparition. Elle se disait que c'était cela le plus important, s'accrocher aux petites éclaircies pour qu'un jour le soleil brille à nouveau sans partage. Alors Lisa descendue les quelques marches du perron, traversa la cour, son regard s'attarda sur un des bâtiments annexes, le fournial, l'ancien four à pain de la ferme. Fournial, c'est un fournil, hein, voilà. Bon, l'ancien four à pain de la ferme, un espace d'environ 20 mètres carrés où seule la toiture avait été restaurée par les frères Palin, c'est-à-dire les frères Palin, les anciens propriétaires. Le soleil se reflétait sur les murs de pierre qui s'éclairaient d'une couleur ocre intense. Elle poussa la porte et sursauta lorsqu'aveuglée par la lumière extérieure, trois chauves-souris s'envolèrent et vinrent frôler sa chevelure. Lisa aimait se rendre dans cette pièce et respirer l'odeur apaisante de terre battue qui se dégageait du sol. Alors, bien sûr, les chauves-souris, il y avait, selon la légende, elles s'accrochaient, elles volaient bas et s'accrochaient après les cheveux. Et il paraît que pour les décrocher, c'était quand même un gros problème. Alors, on va continuer un petit peu cette lecture. Donc, elle va bien sûr pas trouver de champignons parce qu'il est un peu trop tôt, mais elle va faire une promenade qui va la délaisser. Délasser un tout petit peu. Alors donc on va reprendre un peu la lecture. Alors un peu plus loin, elle était déjà sur la mezzanine lorsqu'elle a entendu un graissement venant de la porte de son fils. Son fils bien sûr qui est décédé, mais elle lui a quand même gardé sa chambre. Voilà. Alors elle crut reconnaître le bruit de la porte de l'armoire qui avait dû s'ouvrir avec l'appel d'air provoqué par la fermeture des volets. Lisa n'appréciait pas que nous ne soyons pas parfaitement à sa place dans cette pièce. Elle revint sur ses pas et vit qu'effectivement les deux bâtons de l'armoire étaient grands ouverts. Elle vérifia qu'elle n'avait pas oublié de fermer la fenêtre et regardait autour d'elle. Rien n'avait bougé. Elle s'apprêtait à refermer l'armoire lorsqu'elle tomba sur quelques-unes de ses robes aux couleurs vives et aux motifs fleuris qu'elle avait rangées là. Elle les avait oubliées. Elle se saisit d'un cintre sur lequel était pendue une robe avec des tournesols jaunes vifs sur fond rouge. Elle se souvient de la dernière fois qu'elle l'avait portée. C'était quelques jours avant la disparition de Théo, donc son fils. Elle la déposa sur le lit et attrapa une autre robe d'un bleu ciel intense et parsemé de petites fleurs, de coquelicots. Elle décida de mettre ces deux robes dans sa valise. Parce qu'elle va quand même avec son mari. Bon, il y aura quelques tensions. Mais ils vont partir, bien sûr, pour un week-end sur la côte. Je crois qu'ils vont aller, ben, comme on le faisait beaucoup à l'époque, sur Biarritz. Alors, en fermant la porte de l'armoire, elle constata que les verrous étaient abaissés sur les devantaux. Comment avait-elle pu s'ouvrir? Elle sourit. Son imagination, peut-être. Elle descendit doucement l'escalier à l'affût du moindre bruit, du moindre signe de présence. L'ouverture de l'armoire était-elle un hasard? Le silence régnait dans la maison. Lisa s'installa enfin sur un transat de la terrasse. La nuit était fraîche. Elle mit un plaid sur ses jambes et prit des courriers de Gabriel. Donc, Gabriel, c'est le mari qui était prisonnier dans la guerre de 40 et qui, bien sûr, écrivait quelques cartes à sa femme qu'elle n'avait pas encore lue. Donc, c'est courrier qu'elle n'avait pas encore lu, carnet intime d'Alims posé sur ses genoux. Voilà. Alors, bien sûr, dans ce courrier qui n'est pas très volumineux quand même, sauf, bien sûr, le journal que tenait Alice et qui lui a quand même redonné peut-être le goût à la vie. Il y avait peu de cartes de Gabriel écrites entre 1941 et 1944, une dizaine pas plus. Lisa les lit à plusieurs reprises, cherchant à détecter une période où les envois se seraient peut-être perdus, mais aucun indice ne lui permet d'arriver à cette conclusion. Voilà, alors je vais arrêter la lecture là, donc je vous conseille ce livre La Part des Anges de Bruno Combes. Bon, qui se passe, donc, comme je l'ai dit, dans la région, certainement vers Saint-Cyprien, Belvès est nommé, et puis, bien sûr, il y a le marché de Sarlat, et puis, donc, la présence de cette jeune femme qui avait vécu pendant les années de la guerre, dans les années 1940. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, comme d'habitude, et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.